Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est une année historique, voire même révolutionnaire, qui s'achève pour l'Église catholique. 2013 a été marquée par la renonciation courageuse et spectaculaire de Benoît XVI et par l'élection du premier pape jésuite et américain de l'histoire, le pape François, qui a acquis une extraordinaire popularité et renversé l'image de l'Église dans les médias et l'opinion publique. L'heure est donc au bilan et nous n'y échapperons pas. Nous verrons également que le Saint-Père continue de préparer l'avenir. Une nomination au sein de l'épiscopat italien laisse présager des réformes importantes. Le Saint-Père, dont les propos sont parfois mal compris et mal interprétés, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a dû faire une nouvelle mise au point ce lundi. Dans ce magazine, une place sera également accordée au reste du monde et notamment aux Philippines et au Congo. L'année 2013 touche à sa fin. Ce mardi, en début de soirée, le pape François présidera la célébration des premières vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu, suivie de l'exposition du Saint-Sacrement, du Tédéum d'Action de Grâce de fin d'année et de la bénédiction eucharistique. Cette liturgie traditionnelle du 31 décembre se déroulera dans la basilique Saint-Pierre. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 16h50 sur le player de Radio Vatican en audio et vidéo à l'adresse www.radiovaticana.va. Les commentaires en français ne sont pas prévus. Vous pourrez choisir entre l'italien, l'espagnol et le portugais ou suivre tout simplement la célébration sans commentaires. Le Saint-Père ira ensuite visiter la crèche installée près de l'obélisque sur la place Saint-Pierre. Elle a été réalisée par des artisans de Naples. Et toujours sur la place Saint-Pierre, une veillée de prière pour l'unité et la paix dans les familles et dans le monde aura lieu mardi soir à l'initiative du mouvement de l'amour familial. C'est l'évêque auxiliaire de Rome, Mgr Matteo Zuppi, qui donnera le coup d'envoi à 23h15. C'est donc une page qui est en train de se tourner, mais cette année 2013 au Vatican restera gravée dans l'histoire. Elle a en effet été marquée par des événements à la fois inédits et inattendus. La renonciation du pape Benoît XVI le 11 février, puis l'élection de son successeur le 13 mars, le cardinal argentin Bergoglio, qui a choisi le nom de François. Lucetta Scarafia, historienne des religions et éditorialiste de l'Osservatore Romano, revient sur ces événements déterminants.
La renonciation de Benoît XVI, c'est ça qui a été révolutionnaire, qui a changé l'histoire de l'Église et qui a ouvert le passage pour le pape François. Benoît XVI a été même un pape qui a donné une surprise au monde et qui a même effacé l'image qu'il avait de pape trop traditionnel, pas ouvert. Il a fait l'acte le plus révolutionnaire dans les derniers siècles dans l'Église. Et ça a été très très important car il a démontré que l'Église c'est encore vivante, qu'on peut encore faire des choses nouvelles, on peut ouvrir des autres portes, des autres voies. Et ça a été un enseignement même pour le monde qui est en crise, pour le monde qui a beaucoup de problèmes à se renouveler, surtout l'Italie.
Finalement, cette Église que beaucoup qualifient incapable de changement, cette année a été l'Église des surprises. Elle a démontré qu'elle était capable de se renouveler, qu'elle était capable de poser des gestes véritablement décisifs.
Oui, sans doute. Et qu'elle est capable de courage, car Benoît XVI et pape François sont deux hommes de grand courage, les deux, et qui ont envie de changer, et qui ont le courage et la force de changer. Et l'Église a donné des signes de vitalité, de capacité de construction du futur que les sociétés laïques n'ont pas dans ce moment historique. Et ça est très important, très très important.
Il y a eu la renonciation de Benoît XVI, puis il y a eu cette élection du pape François. Là aussi, moment décisif de cette année, donc à la fois l'élection, mais aussi la personne que l'on n'attendait pas.
Oui, on n'attendait pas et ça a été une surprise. Pape qui vient de l'Amérique latine et un pape qui a choisi un nom qui n'avait pas été un nom de pape, François, et qui signalait déjà un changement grand dans l'Église. Et après, son comportement, ses choix ont tout de suite démontré qu'il était en train de changer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses.
Le pape François, c'est l'évangile avant la doctrine, c'est incarner le fait d'être chrétien. Être chrétien, c'est d'abord une manière d'être. C'est ça la véritable réforme du pape François ?
Oui, mais il ne pouvait pas faire comme ça s'il n'y avait pas eu avant le pape Benoît, qui a défini la doctrine, qui a défini le rapport entre l'Église et la modernité, qui a fait un très grand travail de pensée, un travail théologique. Et alors, pape François est libre de se dédier seulement à la pastorale et pas à la partie intellectuelle du travail du pape, surtout à la pastorale et au rapport avec les fidèles. Il y a le peuple des fidèles qui l'aime beaucoup et qui aime beaucoup les fidèles. Il y a un courant d'amour qui va entre les gens et le pape. Et ça, c'est très important pour la vitalité de l'Église.
En même temps, le pape François est à la fois un pasteur, mais il est également un pape jésuite qui, comme saint Ignace, pratique le discernement spirituel.
Mais oui, ça, on entend beaucoup dans ses mots, dans sa manière d'être. Il est même un homme sévère, mais il a décidé de vivre dans ce moment historique l'aspect plus ouvert, plus amoureux de la catholicité et du christianisme. Et a choisi la miséricorde, a choisi un aspect ouvert de l'Église, car c'est un moment de crise de l'Église où l'Église doit faire connaître aux gens du monde l'amour de Dieu.
Après cette année 2013 de changement, de rupture, quel est votre souhait pour l'année 2014 ?
Que le pape François soit à degré de répondre à la grande espoir qui tout le monde répand en lui. Il y a peut-être trop d'attentes. Sur lui, il y a le poids d'un grand nombre d'attentes par tout le monde. Une attente de réforme de l'Église, une attente de réveil de la conscience, de l'esprit de l'Église et une attente d'espoir. Le monde qui est déprimé par la crise économique, par une crise de valeurs, une crise culturelle, attend trop de choses et j'espère qu'il ait la force de répondre à cet espoir.
L'historienne Lucetta Scarafia, éditorialiste de l'Osservatore Romano, interrogée par Hélène Détombe. Et en cette fin d'année, la presse italienne a accordé une large place à un éditorial du fondateur du quotidien italien La Repubblica, Eugenio Scalfari. Au mois d'octobre, souvenez-vous, ce journaliste, qui se proclame athée, avait publié une longue interview du pape François qui avait défrayé la chronique. Dimanche, il a voulu commenter dans les colonnes du journal le magistère du pape Bergoglio. Il y affirme entre autres que dans sa récente exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, le pape François entend abolir le péché. Interrogé sur notre antenne, le père Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican, se félicite de l'intérêt du monde laïque vis-à-vis de ce pape, mais le contenu de cet éditorial mérite, selon lui, quelques mises au point. Jean-Baptiste Cocagne.
Tout d'abord, ceux qui suivent jour après jour les prises de parole du pape François savent l'importance qu'il attache au péché. Le pape François est un jésuite et les exercices spirituels de saint Ignace, qui constituent pour lui une école de spiritualité et de vie chrétienne, commencent par la méditation des péchés et s'achèvent par un colloque avec Jésus qui est venu mourir pour nos péchés. C'est justement par rapport au péché qu'on peut mesurer l'étendue de la miséricorde divine sur laquelle insiste le pape François. Le père Federico Lombardi note par ailleurs que le journaliste italien a mal interprété une réponse du pape François concernant la fin du monde. Le pape a cité un célèbre verset de la première épître aux Corinthiens « Quand le Fils se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, Dieu sera tout en tous ». Il n'a pas dit, comme l'affirme Eugenio Scalfari, que la divinité sera dans toutes les âmes et que tout sera en tous. Autre inexactitude dans cet éditorial signalé par le père Lombardi, le pape François n'a pas canonisé saint Ignace de Loyola, qui était déjà saint depuis des siècles, il a canonisé Pierre Favre, le premier compagnon de saint Ignace. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège estime donc qu'il faut certes continuer le dialogue, mais qu'il faut l'approfondir pour éviter les malentendus.
Pas d'activité publique pour le pape François en cette veille de fin d'année, mais une nomination qui a fait beaucoup de bruit en Italie. Le souverain pontife a nommé secrétaire général par intérim de la conférence épiscopale italienne, Monseigneur Nunzio Galantino. L'Italie est le seul pays où le président et le secrétaire général de la conférence épiscopale ne sont pas élus, mais nommés par le souverain pontife. Mais si cette nomination suscite autant d'intérêt, c'est que le pape argentin, qui est évêque de Rome et primat d'Italie, souhaiterait réformer en profondeur les statuts et le fonctionnement de la conférence épiscopale italienne et amorcer un changement des mentalités et de la culture ambiante. Le nouveau secrétaire général est peu connu du grand public mais apprécié dans le milieu universitaire. Archevêque d'un diocèse de Calabre, dans le sud de l'Italie, homme de dialogue connu pour sa simplicité et son engagement social, Monseigneur Galantino est présenté comme un outsider. Il a été, au sein de l'épiscopat italien, responsable des études supérieures de théologie et de sciences religieuses. Il succédera à Monseigneur Mariano Crociata, muté il y a quelques semaines par le pape François à la tête du petit diocèse de Latina au sud de Rome. La durée du mandat du nouveau secrétaire n'a pas été établie. Mais selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, cette nomination était devenue urgente pour assurer le bon fonctionnement du secrétaire général. Quant à lui, le président actuel de la conférence épiscopale, le cardinal Bagnasco, s'est dit satisfait de la décision papale. Qu'on en finisse avec les guerres, la faim et la pauvreté, c'est l'appel lancé par les évêques des Philippines pour l'année 2014. Le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Socrates Villegas, a ainsi demandé aux catholiques de prier pour la paix en Syrie, pour la guérison des cœurs troublés, pour les victimes du typhon Eyan, pour la fin des enlèvements et du terrorisme, pour la conversion des corrompus. Olivier Bonnel.
Début novembre, le pays le plus catholique d'Asie a été dévasté par l'un des plus violents typhons à avoir jamais touché terre, avec des vagues géantes et des vents dépassant les 300 km/h. De nombreuses personnes vivent encore dans des campements entourés d'eau et de boue ou dans des bicoques construites avec des matériaux récupérés dans les ruines. Beaucoup sont ceux qui pleurent leurs proches emportés par les flots. Dans un message publié sur le site de son archidiocèse, Monseigneur Socrates Villegas estime qu'il faut malgré tout regarder avec gratitude l'année qui s'achève et envisager avec enthousiasme celle qui commence. Ravagé par des catastrophes naturelles, l'archipel est par ailleurs meurtri par la corruption, les intimidations et les violences incessantes qui marquent la vie politique. Depuis 2010, 27 journalistes ont été tués aux Philippines. C'est sur ce fléau que s'attarde pour sa part Monseigneur Oscar Cruz dans son message de fin d'année. « Ceux que l'on tue, souligne-t-il, sont ceux qui disent et écrivent la vérité. Et cela dérange les corrompus, les dépravés et les pervertis. » Aux Philippines, l'influente Église catholique est engagée sur plusieurs fronts, notamment sur l'île de Mindanao, dans le sud de l'archipel, où sévissent les bandes criminelles et les groupes musulmans indépendantistes. Tout récemment, le maire d'une ville de Mindanao a été abattu à l'aéroport de Manille. Dans cette région, en proie aux violences politiques, crapuleuses et religieuses, l'Église catholique se dit déterminée à poursuivre en 2014 son action en faveur de la paix. Elle peut compter sur le soutien des oulémas et des responsables protestants.
L'année s'achève et on est toujours sans nouvelles du père Georges Van den Bush, enlevé en novembre au Cameroun. Pas de nouvelles non plus des religieuses orthodoxes disparues début décembre en Syrie. L'enlèvement de religieux chrétiens n'est pas nouveau. Il y en a eu beaucoup en Amérique latine du temps des dictatures et aujourd'hui dans les zones à risque en Afrique et au Proche-Orient. Un prêtre en mission à l'étranger n'est pas un expatrié comme les autres. Contrairement à un salarié d'entreprise, un religieux n'est pas obligé d'évacuer une zone sensible. Il répond à un appel et consacre toute sa vie à des populations qu'il ne peut pas abandonner au moment où ça va mal. Et dans le Bas-Congo, le père Blaise Matondo Boulembe est le curé de la paroisse Sainte-Marie de Kimpese. Quand on lui demande son bilan de l'année 2013, il retient surtout les Journées mondiales de la jeunesse à Rio. On l'écoute.
C'est un grand événement qui a marqué le monde entier et qui nous a marqué aussi nous-mêmes en tant que chrétiens catholiques. Nous avons suivi ça à la télévision et c'était vraiment important pour notre Église.
Quel message vous retenez de la part de ce nouveau pape en plus ?
Son appel à nous occuper davantage des pauvres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que nous devons vraiment nous donner à eux, nous donner pour ce travail-là. Je pense que c'est ça aussi le message essentiel du Christ.
Par rapport à la situation dans votre pays, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2013?
La fin de la guerre, ça, c'est un soulagement pour tous les Congolais. C'est un élément qui nous a marqué tous.
Et au-delà de ce qui s'est passé dans votre pays, est-ce qu'il y a une actualité dans le monde qui vous a marqué personnellement?
La grande tempête qui a ravagé les Philippines, c'est choquant de voir comment ils ont été ravagés, comment les vies ont été ravagées par les catastrophes naturelles. Si je dois parler par rapport au changement climatique, bien nous devons prendre vraiment conscience pour voir comment nous devons vraiment accorder beaucoup plus d'attention à la conservation de la nature. Et chez nous ici, ce n'est vraiment pas une préoccupation. Les gens détruisent les forêts, détruisent la nature, ils ne se rendent pas compte des conséquences. Donc l'environnement doit être vraiment au cœur de l'homme pour le moment, pour éviter des catastrophes pareilles, parce que ça peut arriver partout, dans tous les coins du monde. Et nous devons prendre des dispositions maintenant pour les générations d'avenir.
Donc l'année 2014 approche. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année?
Par rapport au monde en général, ce que je souhaite, c'est que le monde soit de plus en plus attentif aux pauvres, à la misère du peuple. Il y a de plus en plus un monde trop capitaliste qui s'installe, qui s'en fout des autres, qui s'en fout des pauvres. Et moi, je suis souvent avec eux dans le village. Ils sont totalement déconnectés du monde. Ça, c'est au niveau mondial, au niveau de notre église locale. Pour l'année 2014, ce que je peux souhaiter, qu'il y ait une organisation renforcée pour nous permettre d'être, surtout nous les prêtres, d'être plus proches de ces gens qui attendent de nous un message, un témoignage de Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays?
La paix, mais aussi le développement. Qu'il y ait un gouvernement qui sera démocratiquement élu. Évidemment, le gouvernement est là, et qu'il y ait vraiment la paix dans notre pays, et qu'il y ait vraiment le progrès, qu'il y ait le développement, comme dans d'autres pays du monde entier.
Le père Matondo Boulimbé, curé de paroisse au Congo, interrogé par Audrey Radondi. En France, le frère Nicolas est le directeur des éditions franciscaines. Pour lui, 2013 a été une année lourde, notamment à cause de la situation économique et politique.
Beaucoup de gens se sentent comme écrasés. Et puis en même temps, de voir nombre de personnes qui ne se résignent pas et qui sont en train réellement d'inventer un monde nouveau. Alors évidemment, on n'en parle pas dans les médias, on nous montre d'abord ce qui ne va pas. Et je suis tout à fait étonné de voir le nombre de personnes, souvent loin de l'Église, qui ont une générosité extraordinaire et qui souhaitent sortir de l'impasse où l'on est pour construire un monde où la gratuité, justement, les relations humaines redeviennent au centre de notre vie, y compris de la vie économique. Voilà, je suis très, très sensible à ça. Donc à la fois, cette atmosphère très, très lourde et très pesante, et puis en même temps, cette espérance. On ne peut pas être chrétien sans cette espérance, parce que nous croyons en la capacité de l'homme de rebondir, tout simplement.
Un événement d'actualité que vous devriez retenir?
Il y a évidemment l'élection du pape qui a été un moment extraordinaire. Extraordinaire parce que dans les semaines qui ont suivi, moi, comme tous les frères, c'est étonnant le nombre de personnes loin de l'Église, souvent de milieux très, très simples, très, très pauvres, qui nous ont dit leur joie et qui nous ont dit se réjouir avec nous de l'élection de ce pape. Voilà, je crois que notre pape est sans doute pas la seule, mais une des bonnes nouvelles de l'année 2013. Il est venu apporter de la respiration à notre monde et nous ouvrir un chemin nouveau et je m'en réjouis beaucoup.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2014?
Mon rêve, c'est de savoir être témoin et que les hommes redécouvrent cette joie de se sentir aimés par Dieu. Découvrir que quelqu'un marche à leur côté, les accueille tels qu'ils sont et leur montre qu'ils sont capables de beaucoup plus qu'ils ne pensent. C'est vraiment une espérance forte en l'homme. Je crois que nous, chrétiens, nous n'avons pas tellement à condamner, le pape nous le dit, nous avons à annoncer la bonne nouvelle de ce Dieu qui se rend présent à nous et qui croit en nous.
C'était le directeur des éditions franciscaines en France. À Assise, la ville de Saint-François, les frères mineurs organisent un réveillon de la Saint-Sylvestre pour les jeunes intitulé « Cela te regarde ». Quelques 2000 participants sont attendus à la basilique Sainte-Marie-des-Anges pour la catéchèse suivie du repas et d'une fête d'animation. Un jeune racontera sa rencontre avec Jésus qui a changé sa vie. La soirée s'achèvera par une procession et par la célébration eucharistique. En Suisse, la collecte annuelle de l'Épiphanie sera versée au profit de la rénovation de 3 églises. Il existe en effet plusieurs paroisses qui manquent de fonds pour subvenir à l'entretien de leurs édifices. Les aménagements envisagés ne sont pas fastueux ou somptueux, explique le directeur de la mission intérieure qui organise la collecte. Il s'agit d'empêcher le délabrement des églises, de combattre l'humidité des murs, de conserver les fresques ou de renouveler les installations électriques pour les adapter aux normes en vigueur. Les paroissiens veulent redonner à leurs églises leur dignité. Chaque année donc, lors de la fête des rois, les fidèles catholiques de Suisse sont appelés par leurs évêques à soutenir la mission intérieure. Fondée il y a 150 ans, cette organisation catholique de solidarité soutient les paroisses dans le besoin qui doit faire face à des frais importants pour la réparation ou la rénovation de leur lieu de culte et elle vient en aide aux prêtres malades ou pauvres. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, et sur Facebook, Radio Vatican, en français.